Il est 19h et une brouette de secondes sur le 101.5 de Radio G ou l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Dans quelques instants, c'est la caisse de Seb. On va parler du chiffre 7, on va parler de patates, on va parler d'italien, on va parler de cheveux et puis d'autres trucs. Mais tout d'abord, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Venez par suite moi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va projeter directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Je ne suis pas tout seul ce soir, on est plein. Bonsoir Luc.
Salut Seb.
Ça roule ?
Ça roule.
Bonsoir Fabien.
Salut Seb.
Ça va ?
Ça va bien.
Super. Nolwenn ?
Salut, ça va ?
Pareil, ça roule. Et Richard ?
Salut et bonjour à tous. Bonjour à tous les chroniqueurs.
Bonjour Richard.
Bonjour Luc.
Chers auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez discuter avec nous en live sur le chat de la radio. N'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver la case de Seb sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'ai repris beaucoup Instagram à mettre plein de trucs, dont des trucs super cool. Richard hoche la tête, tu confirmes ?
J'ai vu ça, ouais. Je
peux en témoigner.
Allez, donc si vous voulez des conseils dont on n'a pas forcément le temps de parler dans l'émission, n'hésitez pas à y aller. Avant de commencer, on va faire plusieurs petites news. On avait rubrique mortuaire, c'est pas le thème, je sais pas comment on le dit.
Chronologique,
non, une nécro, oui. Ouais, puisque on a l'auteur Étienne Willem qui a fait Les Artilleuses entre autres, qui est décédé il y a quelques jours. On l'a appris ce matin et c'est un auteur qui était très apprécié par tout le monde, non seulement par sa gentillesse, on le reconnaissait facilement à son extravagance vestimentaire. Il avait toujours une pipe ou un kilt pour faire des choses. Et puis, il est parti. Donc, on part toujours trop tôt. Voilà. Donc, n'hésitez pas à relire Les Artilleuses quand vous avez l'occasion. Un petit peu aussi de promo avec le festival Angers BD. Il y aura une exposition à partir du 28 juin à la Bibliothèque Toussaint sur le sport en bulle. C'est une exposition de Gérard Berthelot qui expose le sport. Il en a fait quelques-uns quand même. Il en avait fait un sur, comment on appelle ça, sur des gens qui avaient fait une espèce de transat en solitaire avec un bateau qu'on a fait tout seul, mais j'ai plus le nom.
Un truc solitaire.
Il avait fait une BD sur le SCO, mais il s'est spécialisé dans le sport.
Il a fait une très belle BD sur Raymond Coppin. Très belle BD.
Donc il y a pas mal de planches colorées qui vont être visibles à partir du 28 juin jusqu'au 31 août. Donc profitez de l'été pour aller à la Bibliothèque Toussaint et vérifier tout ça. Ouais.
Le 28 juin, c'est l'expo, mais en GBD exactement, c'est quand ?
En GBD, c'est le premier week-end de décembre.
Ok.
Donc là, c'est une expo en partenariat avec Angers BD, en fait.
D'accord, ok.
Angers BD fait des choses en dehors de sa date de festival.
Okay.
C'est aussi l'occasion de promouvoir des auteurs locaux. Une news aussi qui est un petit tristouille. Est-ce que tu veux t'en occuper ou
Oui, pas de problème. Donc oui, Mangakisa, en fait, malheureusement, va fermer ses portes cet été. Donc fin juillet, donc vous avez encore jusqu'à fin juillet pour venir profiter du lieu et pouvoir continuer à lire jusque-là. Voilà.
Et surtout, j'ai vu ça qu'on peut te dévaliser ta collection.
Alors alors pas toute la collection. Je tiens à préciser. Mais oui, en effet, à l'occasion, donc les mangas qui sont sur place sont ma collection personnelle.
Ouais.
Et du coup, je vais faire un peu de tri parce que j'ai besoin d'un peu de place parce que tout ramener chez moi est un petit peu compliqué.
Ouais.
Donc, il va y avoir un peu de vente d'intégrale sur place pour ceux que ça intéresse.
Ok.
Ouais, ça peut être un truc hyper intéressant à faire. Bon, ben on regrettera Mangakisa, mais peut-être que c'est un projet qui reviendra un autre jour.
Bah, peut-être, pourquoi pas, on verra d'ici quelques années si l'occasion se représente.
Ok, parfait. Je vais commencer si ça vous embête pas. Non, on avait peut-être autre chose à faire, non ?
Un anniversaire ?
Un anniversaire. Alors, oui. On peut fêter non seulement un anniversaire,
oui,
mais aussi une dernière chronique.
Ah ! D'accord.
Ouais.
Non.
Si.
Non.
C'est eh ben vrai. Si.
C'est la dernière chronique de Luc.
C'est la dernière chronique de Luc.
En même temps que son anniversaire, c'est fou.
En même temps que son anniversaire,
si, joyeux anniversaire, Luc. Tiens, regarde, on a rapporté un cadeau. C'est pour toi.
C'est pour toi.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Bah, c'est pour ton anniversaire.
Alors, d'accord. Je commente parce qu'on ne voit pas. Il y a un paquet qui a été donné à Luc.
C'est un CD, oui.
C'est une paire de
forme rectangulaire.
C'est une machine à café Senseo. Ce qu'on la rêve.
Oui. Ouais,
ça ressemble beaucoup à une BD, hein, pour ceux qui ne sont pas en studio.
C'est un chabouté qui s'appelle Zoé, qui est magnifique, avec un corbeau. Je sais pas quoi dire. En fait.
Merci, déjà, c'est
merci,
pas mal.
Ouais,
De rien pour ton anniversaire quand même, on avait offert un cadeau.
J'ai vieilli d'un coup, plus vite que je ne pensais.
Mais c'est une façon déjà pour te remercier de nous avoir supporté pendant toutes ces émissions. Bon. Et de s'excuser aussi.
De quoi ?
De toutes les petites blagues et tout ça. Quoi.
Mais non, mais c'était c'est intergénérationnel. Vous avez pu constater que les vieux sont même tolérants.
C'est vrai.
Ils sont pas tous cons.
C'est vrai.
Oh, putain,
c'est
mais oui.
C'est une révélation.
Non, mais c'est génial, c'est une
surprise.
Ma bonne lecture.
C'est une super surprise. Bah oui, chabouté, voilà. C'est important.
Pour le coup, on l'a lu tous les deux.
Ouais.
Et en vrai, je suis un peu triste parce qu'on voulait te demander potentiellement de le chroniquer. Et j'apprends que c'est ta dernière chronique. Donc t'as une heure là pour le lire, vas-y.
Non. Tout se fait en live là ce soir, c'est complètement fou. C'est dingue cette émission, mais c'est complètement fou. Seb,
oui.
Tu
veux le jingle bon anniversaire ?
Non,
le Dorothée.
La dernière émission officielle, ce sera quand ?
Alors, je pensais deuxième semaine de juillet.
D'accord. Eh ben, j'enverrai une chronique.
Ok.
Du chabouté. Voilà.
Trop bien.
Je ferai une chronique parce que c'est.
Tu l'avais déjà lu celui-ci ou
Non, c'est pour ça parce que et quand je vois ce corbeau, ça me fait penser à l'adaptation de The Raven qui a été chantée par Lou Reed et par un dessinateur qui s'appelle j'ai oublié, c'est un Italien, c'est extraordinaire. Ça me reviendra au cours de l'émission, je vous le dirai. Mais ça me fait penser à ça. Il est extraordinaire. Enfin, je ne sais plus quoi dire. En tout cas, merci. Voilà, un grand merci.
Ouais. Il va falloir que tu parles. J'ai cru comprendre qu'on faisait ta chronique maintenant. Donc.
Non, pas forcément. Non. C'est pas forcément dans cet ordre-là. Hein. Vous me charriez tout à l'heure sur les cheveux. Et ben, du coup, on va commencer peut-être avec ça.
D'accord.
Tu nous fais une chronique sur les cheveux.
Ouais, pas loin en fait.
Trop bien.
Je vais vous parler de Witchy qui a été publié aux éditions Aquileos d'Ariel Slamet-Ries. Alors oui, je commence par faire un tacle à l'éditeur. Ça c'est le titre.
Ouais.
Mais alors, qu'est-ce que c'est compliqué à lire si on sait pas.
J'avoue.
Donc là, il y a marqué Witchy. Donc
petite pensée à tous les dyslexiques, effectivement.
Ah ben, voilà. J'aurais été incapable de dire que c'était Witchy.
C'est stylisé, mais voilà. Alors, de quoi ça parle ? Je vais vous le passer, vous allez pouvoir jeter un œil. Ça parle d'un monde, en fait, où la magie existe.
Oh mon Dieu, c'est un livre.
Plus on a de cheveux, plus on a une magie puissante.
Et t'en avais parlé en off, mais oui.
Mais
c'est
voilà.
Pas bon signe pour certains.
Eh ben non, mais moi je compense avec la barbe en fait. Tu vois, normalement.
Je sais pas de qui tu parles.
On est un peu foutu.
Ça va dans l'autre sens pour pour Seb.
C'est ça. C'est-à-dire que j'ai de la magie inversée.
C'est ça.
Ah.
T'as la magie noire.
Ah.
Oh.
Peut-être. Bref. Et imaginez que dans ce monde-là, en fait, on couper les cheveux est un tabou. Hein. Effectivement, si on tire la note magie des cheveux, on ne les coupe pas. Mais des gens qui ont les cheveux trop longs peuvent devenir un danger, car potentiellement trop puissants. Et dans ces cas-là, on les tue. Voilà, okay. Super, voilà,
c'est un peu efficace.
C'est un peu efficace. Et en fait, on va suivre une jeune fille qui va rentrer dans ce qu'on a une sorte d'académie de magie, en fait. Et on se moque d'elle assez souvent parce que ses cheveux, elle les a juste noués en tresse et ça lui arrive à peu près au niveau de l'épaule, là où de nombreuses personnes ont des cheveux qui leur descendent jusqu'aux fesses, voire jusqu'aux genoux. Sauf que cette jeune fille, elle a les cheveux extrêmement longs et que si elles ont cette apparence de petite tresse au niveau de l'épaule, c'est parce qu'elle les camoufle magiquement. Et en fait, lors d'une initiation et d'une sorte de cérémonie, elle va se rendre compte qu'il y a peut-être des dés qui sont pipés et que tout ce qui se passe, c'est peut-être pas aussi pour le bien du monde et de cet univers qu'on le voudrait et que peut-être il y a des choses qui se cachent et que peut-être on serait pas très 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 loin d'une dictature. J'ai trouvé ça très cool parce que relier la magie aux cheveux et tout, c'est pas forcément un truc qu'on fait beaucoup. Même si dans les mangas souvent, tu vois, je pense à Glouton et Dragon. Il y a un personnage d'elfe dedans qui t'explique que si elle ne prend pas soin de ses cheveux ni d'elle-même, sa magie est moins puissante.
Ok.
Donc il y a un rapport avec la magie et les cheveux, mais là il est vraiment mis bien en avant.
Ouais.
Et graphiquement, je trouve que c'est super cool à regarder. C'est très pop, c'est très rond. Il y a des personnages qui sont très caractéristiques avec des yeux qui sont quand même assez gros en fait, sans que ce soit du manga. Attention, hein. Mais ça marche super bien. C'est cool. Il y a plein de vannes, mais il y a toujours une tonalité quand même assez grave. Et on sent que on est dans un monde où on peut avoir une rébellion qui est en train de poindre et que on risque de renverser les choses. Donc lecture super sympa, globalement tout public, hein, même si effectivement on a des moments où les personnages sont plutôt en introspection et se posent des questions de se mutiler. Se couper les cheveux est une sorte de mutilation, hein, mine de rien. Sauf ceux qu'on n'ont pas, hein. Mais c'est un autre problème. Et voilà, mais il n'y a pas de thématique dérangeante. Au contraire, ça parle beaucoup de l'acceptation de soi, de savoir se dépasser un petit peu et de se dire, c'est pas parce qu'on a une capacité un petit peu hors norme qu'on doit la cacher. Au contraire, on doit pouvoir essayer de l'apprivoiser et de permettre aux gens de l'apprivoiser, de nous accepter tel que l'on est. Donc c'est super cool. C'est vraiment une très bonne BD. Il y a même un petit passage. Certains diront un peu woke, mais on a des personnages qui sont pas assignés au bon genre. Et lors de la sélection qui est faite dans le bouquin, à un moment, on leur dit tiens, tu vas aller voir le médecin qui est là-bas. Et elle fait non, moi, c'est pas le médecin qui devrait me regarder parce que je suis plutôt de l'autre bord. C'est un tout petit passage dans le bouquin, ça nuit pas à la lecture et ça roule tout seul. Donc, c'est vraiment très très bien.
Alors, déjà, cette affaire de cheveux, Sanson était déjà. Au cœur de l'action.
Hein, c'est déjà une forme de magie, de toute façon. Sanson.
Comment supprimer sa puissance en lui coupant les cheveux. Merci Dalila. Et je regarde cet album, il est sorti en octobre 2023.
Ouais.
Octobre 2023, en Iran, il y a Mihsa Amini qui a été tuée par la police. Et la manifestation des femmes pour soutenir et pour manifester, ça a été de se couper les cheveux.
Mm.
Si vous vous souvenez.
Ça me souvient bien, oui. Ouais.
Voilà. Donc, je veux dire, faut pas mettre tout dans tout, mais c'est assez, comment dire.
C'est une coïncidence assez symbolique.
Il y a des rencontres comme ça, il y a des rencontres, et ça s'appelle, c'est
The Witchy.
Donc la sorcière.
La sorcière, ouais.
C'est la sorcière. Donc, et les femmes ont toujours été considérées comme des sorcières. Donc, voilà. Mais c'est bien, hein, c'est intéressant.
Pour le coup, c'est juste un seul tome?
Non, c'est une série, en fait. Ça, c'est le tome 1.
D'accord, ok.
Et effectivement, à la fin, on voit bien qu'il y a une ouverture vers autre chose. Mais c'est génial parce que t'as plein de personnages différents qui, au départ, ont tendance à se tirer un peu dans les pattes. Il y a cette jeune fille, l'héroïne, à ce côté un petit peu personnage qui se fait un peu bully dans l'école. Et quand elle
sans le faire exprès, certaines personnes vont se rendre compte qu'elle a ses cheveux si longs. Ça va permettre à d'autres personnes de se rendre compte de ce qu'elle peut vivre et créer certaines amitiés qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Et du coup, je trouve ça vraiment cool. Et voilà, n'hésitez pas à le faire lire à vos enfants, ça passe bien. Ça demande un petit niveau de lecture, mais c'est pas infaisable à partir d'une dizaine d'années. Voilà, donc Witchy d'Ariel Slamet Ries, c'est publié aux éditions Aquileos. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je donne direct la parole à Luc ou est-ce que je fais encore une digression un peu bizarre ?
Digresse.
Allez, on va digresser.
C'est excellent dans la digression.
Vous allez voir.
Bizarre ?
Non, pas bizarre. En fait, c'est juste que je suis tombé au cours de mes lectures, alors involontairement, sur deux ouvrages qui portent quasiment le même nom.
Ah.
Nous avons Le Septième Prince et nous avons Le Septième Prince Démon. D'accord. Alors, peut-être qu'il y a plein d'autres princes, un peu comme les nains. Il y a peut-être Le Septième Prince Dormeur, Le Septième Prince Hatchoum. Je ne sais pas. Mais le postulat de base est pas tout à fait le même, mais il y a certains éléments. Alors, ce n'est pas un isekai. Fabien, est-ce que tu veux rappeler ce qu'est un isekai aux gens ?
Oui, Fabien, qu'est-ce que c'est qu'un isekai ?
Un isekai,
alors, c'est quand en fait une personne est réincarnée dans un autre monde. Voilà, et que l'histoire va se passer dans un autre monde. Donc ça peut être soit du jeu vidéo, des fois, on est réincarné dans un jeu vidéo, ou un monde à part de science-fiction, ou même de fantasy la plupart du temps.
Rien à voir avec les frigos, donc.
Non, rien à voir.
Rien à voir avec les frigos.
Il y a lui qui a compris.
Il est à l'envers, le septième prince démon. Pardon. Et là, en fait, on n'est pas dans un isekai, mais on est bien dans une réincarnation. Sauf que les protagonistes sont réincarnés dans le même monde, mais dans le corps d'un septième prince. Un septième prince démon dans un cas, et un septième prince dans l'autre.
Oui, donc il y a quand même un...
Ah ouais, il y a quand même une
ressemblance entre les deux quand même.
Mais ça s'arrête là à la ressemblance.
D'accord.
Puisque dans le premier que tient Richard et qui va nous donner le nom de l'auteur et le nom de l'éditeur, bon, c'est Noël Graphics l'éditeur et l'auteur.
Attends.
En haut à droite.
Il y a marqué manga œuvre originale character design.
Ah. Bon, on va retrouver les auteurs. Le septième prince démon. On est sur les éditions Komiku, c'est le dessin de Nitora et Noi, et c'est un scénario de Tomoaki Amagi. Tu les as trouvés?
Ouais, je les ai, mais c'est qu'en fait, il y a plusieurs,
plusieurs
à avoir travaillé dessus.
Ah!
Le manga, c'est Yosuke Kokuzawa, d'après une œuvre originale de Kenkyo Na Circle, et le caractère design, c'est Meru.
Ok. Mais je pense que l'un comme l'autre, en fait, ce sont des adaptations de light novel. Comme ça se fait beaucoup, et puis c'est des genres qu'on retrouve beaucoup dans les light novels, ce genre de réincarnation. Alors, on va commencer avec Le Septième Prince. En gros, Le Septième Prince, c'est l'histoire d'un homme qui est passionné par la magie, dans un monde où on ne veut pas forcément te laisser faire, et on va le tuer, parce que justement, il n'a pas le droit de faire de la magie. Et il va se réincarner dans le corps du Septième Prince de ce royaume, et se révéler être extrêmement doué pour la magie. Mais bien sûr, il a toujours sa conscience d'adulte. Hein. Et là, il va expérimenter la magie sous toutes ses formes. Alors, c'est un manga, Le Septième Prince, qui est plutôt... Alors, les deux sont réservés plutôt à un public averti. Le Septième Prince, tout court, pour une raison assez particulière, c'est qu'on a beaucoup de fanservice. C'est un manga qui est sur la plateforme de l'éditeur classé en manga harem. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un protagoniste masculin avec beaucoup de protagonistes féminins avec des atours souvent très généreux. Mais il y a quand même une histoire qui est plutôt intéressante puisqu'on le voit expérimenter la magie avec une certaine facilité. Et il y a plein de types de magie différentes qui vont être expérimentées au fur et à mesure de l'ouvrage. Ce qui est plutôt intéressant à voir et à découvrir. Surtout qu'il doit cacher, en fait, cette connaissance assez poussée de la magie, sous peine de se faire griller, parce que c'est quand même pas normal qu'un gamin de 7 ans, il ait autant de puissance. Pour les petites infos, pour savoir si ça prend de la place sur l'étagère, sachez que ce premier tome chez Neuf Graphics est sorti cette année, mais qu'en Japon, ils sont déjà rendus à 15 tomes.
Ah oui. D'accord. Je vois aussi qu'en France, le Septième Prince est sorti en 2019 et le Septième Prince des Moins est sorti en 2023.
Ah, en VF, il est sorti cette année.
Ah ouais?
Et il serait sorti en 2019 au Japon. T'as peut-être switché les dates.
Ouais.
Allez, Richard.
Ah, attends, c'est Internet.
Et le Septième Prince des Moins. Alors, de quoi ça parle? Le Septième Prince des Moins, on est sur quelque chose de globalement assez différent. Ouais, j'avais raison.
Non, alors effectivement, Septième Prince des Moins 2023 et le Septième Prince 2024.
De quoi? En date de sortie française?
En date de sortie française.
Non, ça vient de sortir, le Septième Prince des Moins.
Ah bon? Mais pourquoi? Mais non.
T'as pas les bonnes sources.
J'ai pas les bonnes sources, je suis fatigué.
Ouais.
Oh là Japon là. 2023 et Komiku 2024.
C'est ça. Non, j'ai confondu avec les sorties officielles.
Ouais. Septième Prince des Moins. Imaginez un monde où les démons et les humains se font joyeusement la bataille depuis quand même pas mal de temps. Et on a un jeune homme dont le village va être rasé par les gobelins, rasé par les elfes noirs, rasé par les démons qui font tous partie de la même alliance. C'est réservé à un public averti puisqu'il y a des passages, au moins à ce moment-là, qui sont plutôt explicites. Puisque autant vous dire que les gobelins se font plaisir avec femmes et enfants, hein. Ils sont pas très très sympas. Et ce jeune garçon qui survit en fait à ce rasage de village, ça se dit pas rasage de village, mais c'est pas grave, va décider de devenir un héros pour tuer le roi des démons et libérer les humains en fait de ça. Il va fonder avec d'autres héros une espèce de coalition et ils vont se faire, alors moment hyper épique, ils vont se faire balancer par des dragons sur la tour du roi des démons pour arriver à tout défoncer. Ça marche bien, hein, c'est assez drôle à regarder. Manque de peau, tous ses copains se font décimer et il est le seul à arriver face au roi des démons et il se fait dépouiller. Pas de bol. Et là, il se réincarne et il voit tout de suite le roi des démons face à lui. Enfin, il ouvre les yeux et il voit il est censé être mort. Hein. Il voit le prince des démons, le roi des démons face à lui. Et il comprend juste à cet instant-là qu'il s'est réincarné dans le fils d'un des rois des démons. Alors, le roi des démons, il fait pas des bébés avec que la même maman. Donc, il y a une compétition entre les différents enfants. Mais notre héros, lui, n'aura qu'une seule envie, grandir, comprendre ce que font les démons, comment ils fonctionnent, pour pouvoir tuer le roi des démons. Ça va pas être simple. Et les deux sont sympas à regarder. On a le côté un peu harem qui peut, donc un public averti pour les deux, parce que un peu harem quand même sur le Septième Prince. Des scènes plutôt explicites sur le Septième Prince démon, parce qu'il y a pas mal de violence. Ça reste pas quand même tout public, mais voilà. C'est deux bouquins qui sont plutôt cool à lire. Donc n'hésitez pas. Est-ce que vous voulez redonner les refs? Richard, t'as les deux dans les mains, t'as pas le choix.
Donc le Septième Prince qui est sorti cette année. C'est un manga de Yosuke Kokuzawa. Et c'est édité chez Noeve Graphics.
Noeve, moi je Noeve dis Graphics. Noeve,
ouais.
Noeve?
Bah ouais. Moi je dis Noeve, bah après ouais.
Et le Septième Prince des Moins, c'est de Nitora Noi, et c'est chez Komiku Édition.
Je rajoute juste une toute petite couche, je trouve super cool les couves que font Noeve Graphics, du coup. Ils mettent du vernis sélectif qui marche très très bien à différents petits endroits, et c'est toutes leurs couves, elles sont plutôt léchées comme ça.
Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je préfère en effet cette couve-là, l'autre du brillant classique.
Elle est plus classique, plus sobre, mais elle est noire, parce qu'on parle de prince démon. Bien sûr. Ok, je vous propose de faire une petite pause musicale avec un retour en jeunesse, mais pas tout à fait, parce que c'est un nouveau morceau, avec Make It All Right de The Offspring, qui vient juste de sortir. Ça vous va?
C'est parfait. Tranquille, ça c'est bien, c'est
allez,
parfait.
C'est parti. To fly away with you.
Just suck it up. You'll say, say it only hurts for a while. www.radio-g.fr.
Allez, vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'est de nouveau la case de Seb. On est toujours en train de vous parler du meilleur du 9e art. Et on va aller du côté de l'Italie, c'est ça, Luc?
Tout à fait, c'est de l'Italie dont il va être question. Et on a le mime des Italiens, alors un peu caricatural, un peu excessif quand même, faut
vaguement
bien dire.
Vaguement caricatural.
Mais c'est du mime, ça ne passe pas à la radio, mais les auditeurs ratent quelque chose quand même.
On essaye de déstabiliser un petit peu.
Ils sont fatigants. Hop, aïe, ça marche pas ce que je veux faire. Allez, on est parti.
Bulle de noir. Quand le polar s'écrit en BD.
Eh ben, bonjour à toutes et tous. Il y a des jours où faire une chronique, eh ben, c'est un vrai bonheur. Et pour ce rendez-vous du polar en BD, c'est un petit bijou miraculeux dont je vais vous parler. Une adaptation du roman de Giorgio Serbanenko. La première enquête de Duca Lamberti, Vénus privée, adaptée par Paolo Basilieri, et c'est publié par les éditions Ici Même.
Est-ce que cet album va encore une fois être à la hauteur?
Alors bien évidemment Seb, tu me connais quand même, mais tout d'abord, juste pour replacer Giorgio Serbanenko dans le paysage. C'est un auteur un peu oublié à mes yeux, et pourtant son enquêteur Duca Lamberti fait partie de ces héros de polar que les auteurs européens ont su développer, comme Pepe Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán, Maigret de Simno, ou plus au nord, le mythique Martin Beck de Maje Sauval et Pierre Wallo.
Allez, ça c'est fait, mais de quoi ça parle, Vénus privée?
Ça se passe à Milan, et dans ses environs. Déjà, comment peut-il en être autrement pour ce natif de Kiev qui trouva refuge avec sa mère en 1927. On est sur un terrain vague, près d'un pont. Un homme a découvert le corps d'une jeune fille morte. Il s'agit de Alberta Radelli, 23 ans, vendeuse. Et la presse est là, aux aguets. On est en Italie quand même, hein. Ça, c'était le préambule. L'histoire, elle commence une année plus tard avec l'apparition de Duca Lamberti, médecin, qui vient de séjourner 3 ans en prison pour euthanasie. Il a aidé à mourir une femme atteinte d'un cancer en phase terminale, mais dans l'Italie de 1966, ce n'est pas vraiment bien vu. Alors, il sort de prison, mais il est sans travail. Et grâce au commissaire Carrois, un ami de son père, il obtient un travail un peu surprenant. Il devient le chaperon du fils de Monsieur Auseri, Davide, alcoolique. Davide a 24 ans, mesure plus de 2 mètres et pèse pas loin de 100 kilos.
Ah ouais, un peu comme Baleine dans Full Metal Jacket, c'est ça?
Eh ben ouais, on n'en est pas loin, ouais. Duca Lamberti explique à Auseri que l'alcoolisme de Davide est probablement la conséquence d'un profond traumatisme. Il commence sa mission et essaye de comprendre pourquoi Davide est quasi mutique. Il vient avec empathie et use de méthodes douces. Il constate qu'en plus de l'alcool, David se comporte de façon quasi suicidaire en voiture. Il conduit à tombeau ouvert son Alfa Romeo. Duca Lamberti arrive à nouer le dialogue et c'est là que Alberta Radelli, la morte du prologue, réapparaît. Davide s'accuse de l'avoir tué. Mais pour Duca Lamberti, médecin, quel crédit peut-on réellement accorder aux propos d'un individu quasi psychotique? Alors il se lance dans l'enquête et va entrer dans un monde trouble, celui de la traite des Blanches, qui déjà en 1966 se ramifie au niveau international et use des mêmes méthodes qu'aujourd'hui avec le Darknet. À ce point de ma chronique, je suis sûr, Seb, que tu vas me poser des questions sur le graphisme, car tu n'aimes pas que l'on divulgâche.
Bien vu. Et du coup, le graphisme, il est comment?
Eh ben, il est au diapason de cette adaptation. Un graphisme, à mes yeux, époustouflant. Tout d'abord, c'est du noir et blanc. Paolo Basilieri dessine à coups de traits et de points. Beaucoup de traits et beaucoup de points. Dans le résultat, on n'est pas loin de la technique du Bende utilisée par Roy Lichtenstein. Bien que réalisé en 2023, graphiquement, l'album renvoie à une époque plus ancienne, les années 60. Autre particularité, les phylactères. Ils sont présents, très présents. Il y a beaucoup de textes. Et ces phylactères sont tous reliés de case en case et circulent sur la page, ce qui nous donne l'impression de suivre les pensées des personnages. Paolo Bacigliari a un geste très précis. Ce qui accroche notre attention immédiatement, c'est le dessin des yeux de ces personnages. Il construit leur physionomie autour de leurs yeux. Légèrement surdimensionnés, presque comme dans un manga finalement, ils semblent toujours étonnés ou surpris, parfois très détaillés, on distingue parfaitement la pupille, d'autres fois simplement un point noir, mais il réussit toujours à leur donner une expression. Ce qui donne à ces personnages une existence réelle, mais aussi une âme. Il y a les personnages et leurs yeux, il y a aussi les corps, des corps de femmes dénudées, aux frontières de l'érotisme, puisqu'on est dans le monde de la prostitution, mais loin quand même de tout voyeurisme. Et en ce sens, on est parfaitement dans l'esprit de l'écriture de Serbanenko. Je suis aussi obligé de parler de la mise en page qui est de haute volée. Les pages peuvent être classiques, les cases se succèdent simplement, mais les cases peuvent être réduites à une succession de simples vignettes qui détaillent l'image qu'elles côtoient, un peu à la manière du split screen au cinéma. Enfin, dernier niveau de lecture, à mes yeux, les bruits, toujours signifiés, clics d'appareils photo, sonneries de téléphone, aboiements de chiens, rugissements des moteurs de voitures qui traversent les pages. Alors, juste pour le plaisir du détail, de petits anachronismes dans ce superbe album, page 16, quand le père de Davide parle de ce qu'il lui a interdit. Il dit l'avoir empêché d'aller sur Internet, alors qu'on est en 1966. Et aussi, lorsque Duca Lamberti et Davide se retrouvent dans une boîte de nuit, le groupe sur scène chante « Vénus » des Shocking Blue, titre qui date de 69, alors qu'on est toujours en 66. Mais bon, c'est juste pour le plaisir du chipotage. Et la directrice de la maison d'édition reconnaît que ces deux petits détails leur ont échappé. Tu vois, Seb, des albums comme Vénus Privé, on rêverait d'en lire tous les jours. C'est vrai, il y a le roman de Serbanenko qui ausculte au microscope la société italienne, comme il le fera 3 ans plus tard dans Les Enfants du Massacre. Mais l'enjeu était de ne pas défigurer le roman. Et Paolo Bacigliari relève le défi. Plus qu'un album de BD, plus qu'un roman graphique, Vénus Privé fait près de 160 pages, c'est un objet de haute à haute densité émotionnelle, addictif et hypnotique, tellement ces personnages nous regardent, nous, au fond des yeux. Par la simple puissance de son dessin, nous comprenons la mélancolie de Duca Lamberti, nous nous apitoyons presque sur le désarroi de Davide, nous sommes effrayés par le sort réservé à ces très jeunes femmes. Ce sont les éditions ici même qui ont réalisé cet album, je devrais plutôt dire les excellentes éditions ici même, dont il y a quelques semaines je ne connaissais pas le travail. Elles sont installées à Nantes et sont dirigées par Langevine, Bérangère, Orieux. Dans leur catalogue, plus de 60 titres où la production italienne tient une bonne place. Je rappelle le titre de l'album, Vénus Privé, il est de Paolo Bacigliari, à partir d'un roman de Giorgio Serbanenko, et il est publié par les éditions ici même.
Ben encore une belle pépite. Oui. On en discutait avant la chronique, parce qu'on l'a un peu parcouru. Là. On aurait bien aimé un format plus grand. Hein, ouais. Les éditions ici même, n'hésitez pas si vous pensez que ça peut valoir le coup. Mais
ce sera sans doute l'objet d'une discussion avec la directrice de la maison d'édition, Bérangère Orieux, parce que je l'inviterai dans l'émission Entre les pages. C'est une angevine. Elle fait un travail vraiment étonnant dans cette maison d'édition et certainement qu'on en parlera à ce moment-là.
Eh bien, écoute, fais bien passer le message.
Je n'y manquerai pas.
Je propose, du coup, à Fabien d'enchaîner.
Ok.
Est-ce que ça te va?
Mais ça me va très bien.
Un petit jingle aussi, hein?
Allez, c'est parti.
C'est parti.
Kaizoku-oni! Ore wa nare!
Nani? お前はもう死んでいる。
Alors, je vous propose de revenir un peu dans le passé avec ce titre dont je vais vous parler ce soir, puisque du coup, je vais vous parler d'un titre qui est sorti en France en 2001. donc ça remonte un petit peu. Et il s'agit de Dragon Head, aux éditions Pika, et dont l'auteur est Minetaro Mochizuki.
Ouais, ça va être la grosse déconnade.
Ouais, c'est ça. Titre que je pense tu connais, Seb.
Oui.
Et Richard et Nolwenn ne connaissent pas, ils n'étaient pas nés.
Ah oui, c'est ça, ils sont trop jeunes.
Je vais te le piquer. Alors moi, j'étais né, arrêtez. Ça va pas, non.
Moi aussi, je ne vous permets pas.
Donc, c'est une série qui est en 10 tomes. Et donc là, on est encore une fois un peu comme à mon habitude ici cette année sur un titre à ne pas mettre entre toutes les mains. Clairement pas du tout. Donc on est vraiment sur un seinen où là on va être sur un suspense drame un peu post-apocalyptique, voilà, hein, pour résumer un petit peu le tout. Donc du coup, Dragonette, de quoi ça parle? Donc en fait, tout commence dans un train où une classe d'élèves japonais rentre vers Tokyo. Une scène de la vie ordinaire, vraiment classique, qui va basculer d'un seul coup en fait suite à un événement de taille. Alors que le train rentre dans un tunnel, c'est l'accident, le train déraille, les wagons se retournent, tous les voyageurs, seuls trois élèves échappent à la mort. Teru, Ako et Nobuo. Ça met directement dans le contexte et ils se retrouvent enfermés dans le tunnel. Donc c'est-à-dire que tout s'est écroulé, ils sont dans l'obscurité complète. Un tunnel qui semble sans issue et la seule chose qu'ils entendent, c'est la radio qui répète inlassablement un message concernant un mystérieux état d'urgence. Donc ils vont se retrouver dans des ténèbres, habiter des cadavres pourrissants qui révèlent les peurs et définissent les caractères. En fait, la folie s'installe peu à peu dans l'esprit perturbé de Nobuo, qui clairement va complètement vriller. C'est un des trois qui va pas réussir à garder toute sa tête. Et donc, tandis que Teru et Ako, eux, sont beaucoup plus pragmatiques, ils vont essayer de trouver des solutions rationnelles pour s'en sortir. Mais choses qui vont, au final, bon, c'est pas vraiment, c'est pas trop un spoil, hein, puisqu'ils vont quand même, malgré tout, réussir à sortir du tunnel. Mais là, du coup, ils vont retrouver un monde complètement bouleversé, d'où le côté un peu post-apocalyptique, puisqu'ils vont devoir réussir à s'en sortir dans ce nouveau monde, on va dire. C'est une série qu'on pourrait décomposer en deux parties. Donc, cette première partie qui est dans le tunnel, où là, vraiment, moi, c'est celle qui, comme beaucoup, je crois, de lecteurs, m'a le plus plu et m'a le plus marqué. C'est celle où on va vraiment suivre ces trois survivants dans le noir complet, où il y a eu l'accident. C'est l'auteur arrive à nous retransmettre cette notion d'angoisse. Vraiment, on a l'impression d'être dans le noir avec eux. Alors, nous, on l'est pas complètement, parce que du coup, forcément, faut bien qu'on puisse voir ce qui s'y passe. Mais il arrive à nous montrer que eux le sont et que ils marchent avec les cadavres de leurs des élèves qui étaient avec eux juste avant. Il nous dépeint cette angoisse et la folie qui commence à émaner petit à petit, surtout dans ce troisième personnage, qui, je trouve, il arrive à le retransmettre de manière excellente. On sent cette folie qui vient, et on la comprend en plus, parce qu'ils sont vraiment dans une atmosphère hyper angoissante. Donc, c'est hyper oppressant. Le dessin, en plus, s'y prête vraiment beaucoup, avec beaucoup d'aplats noirs. Il a un trait qui est très réaliste, mais assez particulier malgré tout. On reconnaît très facilement cet auteur-là. On pourrait prendre d'autres séries. On sait que c'est lui, même des séries qui n'ont rien à voir avec ce style-là. Et du coup, ils vont réussir donc du coup à sortir de ça. Et la deuxième partie, ça va plutôt être comment réussir à survivre dans ce monde post-apocalyptique, puisque voilà, ils vont retrouver un monde extérieur où semé d'embûches, où il n'y a plus aucun repère ni loi. Et du coup, l'objectif, c'est de savoir comment ils vont survivre et réussir à s'en sortir. Donc, Dragon Head, en fait, c'est vraiment devenu au fil du temps un incontournable du manga. Ça fait partie des séries qui sont quand même très connues. Minetaro Mochizuki est un grand mangaka qui a fait beaucoup d'autres titres qui n'ont d'ailleurs rien à forcément à voir avec ce type-là. Hein. Il a été capable, notamment, je pense à Shisa Kobe, qui est un de ses gros autres titres. On va être plus sur une tranche de vie de japonais classique dans les années, si je dis pas de bêtises, 60-70, je crois, de mémoire. Et il a vraiment son style graphique à lui, qu'on reconnaît entre tous. Et dans Dragon Head, il va vraiment réussir à dépeindre cet univers très inquiétant, très angoissant, où en fait, on va ressentir vraiment la question ultime, c'est comment les êtres humains, seuls face à eux-mêmes et à un monde qui n'a plus ni repère ni loi, se comportent. Et ça va être ça qui va vraiment tenir tout le récit du début jusqu'à la fin, avec toutes les rencontres qu'ils vont faire forcément. Et avec la nature humaine qui, bien sûr, comme on le sait, est toujours dans ces cas-là la plus belle.
toujours positif.
C'est ça, exactement.
Dès le tome 1, on sait que tout se passe bien, tout voilà. Ça va être...
Voilà. Donc là, bah, encore une fois, hein, ouais, une lecture qu'il faut pas mettre dans les mains d'un jeune public. Là, clairement, dès le début, ça nous plonge dedans. Et, là, je dirais bien une quinzaine d'années quand même, facile.
Ouais. Sinon, ça pourrait
traumatiser, hein, ça peut faire peur. Vraiment, les premiers tomes dans le tunnel, on n'est pas loin de l'horreur, en fait. Clairement, ce qu'il en dépeint, c'est vraiment ça. Donc voilà, pour Dragon Head, donc, je vais redonner les références. Donc, l'auteur, c'est Minetaro Mochizuki. C'est chez Pika Édition. C'est sorti en France en 2001 et il y a 10 tomes. Alors promis, pour la prochaine fois, j'ai décidé pour ma dernière chronique de partir sur quelque chose d'un peu plus gai et tout ça, et je vais partir sur un petit shonen que j'ai lu il y a pas longtemps et que j'ai trouvé une petite pépite, alors qui est pas toute récente, mais qui mériterait d'être beaucoup plus connu.
Qui est sorti il y a 25 ans et qui a 105 tomes.
Non, c'est une petite série, donc il y a 8 ou 9 tomes seulement, donc rapide à lire, et très très sympa et très punchy. Donc je vous
raconte ça. Et ben on hâte. Merci Fabien.
Mais de rien.
Allez, je vais enchaîner sur un truc un peu particulier. Pour cette chronique, je vais tenter quelque chose d'inédit. Mais pour ça, je vais avoir besoin de votre participation, chers auditeurs.
Oh, tu vas pas ressortir les gamins du placard.
Ah, on est là !
Non, pas encore. Non.
On a dit qu'ils restaient dans la cave aujourd'hui.
Mais n'ayez crainte, chers auditeurs. Je vais vous demander un truc. Ça va vous paraître étrange, mais promis, ça vaut le coup. Enfin, je crois. J'espère. J'aimerais que vous preniez l'appareil qui vous sert à écouter cette chronique, radio, téléphone,
l'autoradio,
PC, et que vous l'incliniez vers l'avant de 45 degrés. Si vous êtes en voiture, c'est vrai que ça peut être un peu tendu, mais ça vaut le coup d'essayer. Allez, je vous laisse quelques secondes pour mettre tout ça en place. On est bon ? Ok, c'est parti. Pas si longtemps, mais un peu quand même, puisque Luc était déjà né, dans une galaxie pas si lointaine, bah la nôtre, hein, mais les États-Unis, ça fait quand même une trotte. C'est une période un peu dure pour un jeune garçon nommé George Lucas. Le jeune homme est plutôt turbulent, cancre et fan de voitures et de vitesse. Et il subit de plein fouet un accident qui manque de lui coûter la vie. Comme si une puissance occulte lui avait adressé une seconde chance, sur son lit d'hôpital, il décide d'aller à l'université et de se consacrer au cinéma. Et le jeune George va y être aussi ambitieux qu'il y sera discret. Malgré un premier court-métrage salué par tout le monde, le milieu de 7e art n'est pas tendre avec les réalisateurs en devenir. Et il faut dire que le jeune Lucas ne veut pas non plus rentrer dans un moule qu'il juge trop petit pour contenir ses ambitions. Mais il pourra compter sur de nombreux alliés qu'il va se faire en chemin pour réaliser le film qui changera à jamais l'histoire du cinéma. Star Wars, épisode 4, un nouvel espoir. Alors je vous entends déjà me dire « Oh ben oui Seb, mais c'est plutôt chiant les biographies !»
Oh ben oui, c'est plutôt chiant les biographies.
Eh bien mes petits camarades, sachez que vous vous fourrez les doigts dans l'œil jusqu'à l'épaule. En effet, Laurent Hopman et Renaud Roche ont fait un travail de dingue pour rendre cette biographie aussi proche de la réalité que possible, tout en étant aussi passionnante, voire même plus que la saga dont elle raconte les origines. Alors je sais, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont salué cette BD, qui ont dit qu'elle était excellente, mais moi je l'avais pas fait. Donc maintenant, vous pouvez être rassuré, c'est vrai. Donc, sans une seule hésitation, c'est une BD dont le travail journalistique et de recherche de Laurent Hopman est dingue. Je suis persuadé que même les plus aguerris des fans de Star Wars découvriront sans nul doute des informations et anecdotes qu'ils ignoraient. Nul doute non plus qu'un curieux complètement ignare de la saga y prendra également plaisir. Non seulement parce que son cadre historique est cool et que ce témoignage est aussi clair que possible, mais aussi grâce à son dessin fluide, rond, dont les teintes grises, parfois relevées par des couleurs, savent diriger le regard pour une lecture sans heurts et tellement agréable. Pas de prise de tête, tout roule comme sur du papier à musique. C'est propre, net, passionnant. C'est un album qui a été publié chez Deman Édition, une maison d'édition qui publie peu, puisque, alors, petite blague, elle existe depuis 1995, mais n'a publié que 3 BD. Bon, je vous rassure, elle a commencé par publier d'abord des magazines, avant de se recentrer depuis 2022 sur des ouvrages pour faire découvrir des gens, dont des ouvrages, dont un consacré à Yann Arthus Bertrand, par exemple. Et celui consacré à George Lucas. Alors, même si elles sont toutes de la même qualité que le présent album, ben foncez, parce que ça vaut vraiment le coup. Ça s'appelle La Guerre des Lucas. Enfin, Les Guerres de Lucas, pardon. C'est publié chez Deman Édition. C'est de Laurent Hopman et Renaud Roche. Vous en aviez entendu parler?
Oui. Ça a beaucoup, l'album a eu, enfin, a été reçu de manière très, très élogieuse. Enfin, c'est assez surprenant parce que, bon, là, c'est moi qui parle et ça n'engage que moi. Même si j'étais déjà né quand les premiers Star Wars sont sortis, c'est que George Lucas finalement. C'est,
ah oui.
Bon, mais il y a eu une réception très très élogieuse. Alors moi, je serais curieux de le lire parce que voilà, je suis passé un peu à côté de la Guerre des Étoiles. Je me sens normal, donc c'est pas très grave. Voilà. Oui. Je sais, Richard, je sais, c'est possible. On peut vivre sans ça.
Oh mon Dieu.
Non, mais enfin, moi, je suis un petit peu comme Luc, en fait. La Guerre des Étoiles, je la consomme de manière pop-corn, sans être un fan hardcore. Et je trouve hyper intéressant, en fait, de savoir comment ça a été construit, comment ça a été compliqué, comment on se dit, tiens, j'aimerais bien faire ça. Et qu'on te dit, ah non, ça ne pourra pas se faire parce que c'est trop compliqué. Bah, c'est pas grave, on va construire des trucs pour pouvoir le faire. Et de se dire que bah, à chaque fois qu'il y a eu des échecs, et il y en a eu quand même pas mal, bah, il a su rebondir pour arriver au résultat qu'il voulait. Et c'est une sacrée épopée, et c'est hyper intéressant.
Enfin, c'est le propre des... Oui, des créateurs. Hein. On peut, alors, si on reste dans la SF, Kubrick, quand il est parti dans son projet dingue de 2001 Odyssée de l'espace, effectivement, ça semblait un peu, les producteurs semblaient un peu, frileux. Oui, ça paraissait un peu. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Donc, je pense qu'effectivement, ça fait partie des personnages très novateurs. Moi, je suis assez surpris par le classicisme du dessin de cet album. On est sur une forme, classique de mise en page et de dessin. Voilà, j'attendais quelque chose de plus. Je sais pas, en fait, ce que j'attendais, mais voilà, c'est sur le dessin que ça m'interpelle beaucoup.
Ben, ça marche super bien, en fait, parce que vraiment, le dessin nous porte et ne va pas nous bloquer comme certaines biographies où on a des choses qu'on voulait trop rentrer dans l'époque. Là, c'est rond, ça roule bien. La narration est plutôt maîtrisée. Renaud Roche, il a travaillé pour Illumination Software, qui a fait Tous en scène numéro 2. Donc c'est un mec qui sait raconter, en fait, et qui le fait bien, parce que ça roule vraiment tout seul. On passe les pages sans vraiment voir le temps défiler. C'est pas dénué d'humour, c'est... Les personnages, on les reconnaît très très bien. Donc c'est...
Ah oui, les portraits de Lucas sont... Effectivement, c'est difficile de ne pas savoir que c'est George Lucas. Ouais.
Et puis même tous les autres persos, hein, que ce soit Harrison Ford, Carrie Fisher, j'ai pas le nom de tout le monde. Mais ça marche vraiment très très bien. Et le fait d'avoir ces tonalités de noir avec quelques touches de couleur, ça glisse vraiment tout seul comme...
C'est un gros roman graphique, hein, parce que je sais pas combien il fait de pages, on doit frôler les 300 pages.
200.
200? Ouais. 200 pages, donc,
c'est une page épaisse.
Voilà. Non, mais c'est moi, c'est ce qui me surprend toujours, c'est que ce sont des petites maisons d'édition qui prennent des vrais risques éditoriaux, et entre autres en soignant l'objet. L'objet, il est vraiment très beau. Le papier, effectivement, est épais. Enfin, c'est vraiment un beau roman graphique, ouais.
Et une question que beaucoup de gens ont posée aux auteurs, c'était de savoir si George Lucas avait lu l'ouvrage. Je le sais depuis peu, il l'a lu récemment dans une version anglaise, et ça a été longtemps une question des auteurs de savoir s'ils allaient lui faire parvenir et comment ils allaient lui faire parvenir. Et ils ont répondu à cette question sur leur Instagram il y a très peu de temps.
parce que c'est George Lucas est toujours vivant.
Oui,
faut bien le dire.
Oui, oui.
Donc c'est non mais c'est une c'est une mission d'œuvre publique là que tu fais. Enfin c'est voilà, il faut vraiment apporter la culture sous tous ses angles. Alors l'album est très, alors on a le titre hein, à la guerre des étoiles hein,
légèrement Star Wars, incliné
hein, incliné qui s'en va. Est-ce qu'il parle dedans du premier film de, alors il y a le premier court métrage
THX 1138, ouais.
Ouais, le magnifique THX 1138.
Ben c'est ce qu'ils expliquent en fait, ouais. C'est qu'il a fait le court métrage, ouais. Qui a été salué par tout le monde, mm-hmm. Et quand il a voulu faire une version longue, on lui a dit, ouais. Oula, détends-toi gars, c'est pas parce que t'as fait un truc bien que on va te donner de l'argent pour faire quelque chose de mieux, hein. Mmh. Et c'est d'autant plus.
Et Dieu sait si le THX 1138 est un film, comment dire, voilà, une référence dans le cinéma de SF. Voilà, il y a des images. Moi, je l'ai vu.
C'est son premier film, c'est ça?
Ouais, c'est ouais. Son premier film, ouais. Et c'est extraordinaire. Le dernier plan de THX quand ils sortent et qui vont vers le soleil levant, c'est extraordinaire. Enfin.
Voilà. Alors, c'est pas le truc le plus accessible du monde pour le néophyte non plus. Ça roule bien, ouais, ça passe bien, mais
ouais.
Mm-hmm. Le rythme est un peu lent quand même, je trouve.
Bah, c'est certainement que les codes ont changé. Enfin, on n'est plus habitué à ce genre de cinéma. Non, l'album est vraiment très très beau. Hein. C'est en plus ce rose qui domine sur la couverture. Je trouve ça vraiment très intéressant.
Eh bien, que vous soyez fan ou non de Star Wars, n'hésitez pas. C'est vraiment un truc. Si vous connaissez des fans de Star Wars, n'hésitez pas à leur offrir. C'est un livre qui n'a plus besoin de faire sa pub parce que il a déjà, c'est 24 €, donc
oui, c'est 24 €, oui, c'est pas, ce voilà. N'est pas cher,
ce n'est pas cher,
disons-le clairement.
Au vu du, oui, au niveau, au vu de l'édition, ouais. Et de la qualité du livre, je m'attendais à plus que ça quand t'as dit le prix.
Mais non, c'est voilà, bonne surprise.
Je me permets un petit point anecdote puisqu'on parle de George Lucas et tout ça.
Oui.
Anecdote cinéma.
Oui.
T'as parlé de son premier film qui est THX 1138. Vous savez que bah pour le coup il a aussi la marque THX qui est comment dire,
pour le son,
mais en fait le logo sonore, le truc qui fait tout ça à la base, ça a été pensé pour faire un test sonore des salles de cinéma.
Ah d'accord.
C'était pour ça okay. J'adore ce son.
D'accord.
Voilà.
Un son inutile, mais
qui était là pour tester que toutes les enceintes fonctionnaient bien avant le film.
D'accord, ok.
Bon, ouais, ça marche bien. Voilà. C'est une bonne anecdote.
Donc on apprend. Richard peut même nous apprendre des choses.
Ça arrive.
Bon, ça c'est un petit tacle quand même derrière la nuque.
Bah, écoute, Luc, c'est ton anniversaire aujourd'hui.
À force de faire trop de tacles, tu vas devoir lui offrir un cadeau.
Ouais, super. Aujourd'hui, je voulais pas t'attaquer. Bon, allez. Il me reste combien? 5 minutes. C'est parti.
On se détend. N'en venez pas aux mains, s'il vous plaît.
Excusez-moi.
De toute façon, tu regardes Luc un peu trop intensément dans les yeux, il saigne du nez.
Bon, la prochaine fois, je t'amène un paquet de mouchoirs.
La force est présente très fortement chez Luc. Bref. On va passer dans un tout autre registre. Pierre Benoît tout à l'heure parlait de patins à glace. Je vais moi aussi parler de patins à glace.
Oula,
non, c'est une blague. Avec médailliste de. Alors, c'est chiant parce que des fois il y a des noms qui sont très longs et t'as peur de te planter au milieu de Tsurumaikada, mm-hmm. Qui est publié aux éditions Nobinobi. J'ai en ma possession les deux premiers tomes. Et déjà, avant de vous parler du contenu, j'aimerais juste parler de la couve que je trouve super belle. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mes petits camarades autour de la table, mais je les trouve très très jolies.
Non, effectivement, c'est...
La compo, elle est classe. On a un adulte avec une enfant en tenue de patin à glace. Les deux couvertures sont composées de la même manière.
Faut se réveiller.
Et avec le titre, avec un côté un petit peu reflet pailleté, qui marche vraiment très très bien. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de patins à glace. Et comme j'ai pu le mentionner sur Instagram, si vous avez lu la chronique que j'ai fait sur Instagram, moi, le patin à glace, je trouve ça chiant. Non, mais vraiment.
Wow. Comment tu peux dire ça?
Eh ben, je le dis parce que c'est mon ressenti. Et je suis
ressenti
tombé...
ou frustration?
Non, pas frustration. Je patine aussi bien qu'une baleine avec le nez carré, tu vois. Hein. Et... à lire ce manga, j'ai eu l'impression que je passais quand même à côté de quelque chose. Parce que l'histoire, c'est celle de passionnés. Et on nous met vraiment de la passion dans ce manga de bout en bout. On suit l'histoire d'un homme qui est danseur sur glace. Il n'est pas patineur artistique, il est danseur sur glace. Parce qu'il a commencé une carrière de patinage beaucoup trop tardivement pour pouvoir faire quelque chose de son talent. Il vit de petits boulots, il est coach, il entraîne des gamins. Et un jour, il va être amené à rencontrer une jeune fille qui n'a pas le droit de faire du patinage parce que sa maman lui interdit, qui n'a pas forcément les moyens de faire du patinage et qui a réussi à soudoyer le patron de la patinoire en lui apportant des vers de terre pour ses oiseaux. Comme ça, il la laisse patiner.
C'est comme ça qu'on soudoie les patrons de patinoire.
Voilà, le vers de terre. Penser au vers de terre.
Toujours penser au vers de terre, oui.
Et du coup, le héros va prendre cette gamine et va tester ses aptitudes au patinage. Et se rendre compte que même si elle manque de certaines bases, elle comprend vite, peut-être plus vite, qu'une enfant qui aurait commencé à l'âge idéal de 5 ans. Parce qu'elle doit en avoir 8. Et c'est un tout petit divulgachage. Il veut lui expliquer à cette jeune fille que s'il l'entraîne, il va l'entraîner pour ce qu'elle, elle veut. Et elle va simplement lui dire « Écoute, fais de moi la meilleure athlète de patinage au monde. » Et il dit « Ok, banco, on y va. » C'est beau, c'est un manga qui est... On passe de scènes de déconnade à des scènes de pur flottement de patinage, comme on peut en voir. Il y a des moments qui sont excellemment dessinés, où on a vraiment l'impression d'avoir un moment de grâce globale. Et le moment d'après, on va nous remontrer toute la difficulté d'une figure. Donc c'est vraiment un truc de dingue et c'est un manga que j'ai vraiment vraiment kiffé. Voilà.
Ok.
On redonne les références parce qu'on va pas avoir beaucoup plus de temps que ça.
On fait le bilan calmement.
Allez, vas-y.
Se remémorant de chaque.
Nolwenn, c'est toi qui l'as dans les mains. Allez hop, t'es parti.
Oui, Médaliste de Tsuru Maekada. Si je ne me suis pas trompé, à Nobidomi.
C'est ça. Voilà. Mmh. On va pas forcément avoir beaucoup de temps d'échanger.
On a eu le septième prince de Yosuko Kokuzawa et le septième prince démon de Nitoradnoi.
On a eu Dragon Head de Minetaro Mochizuki aux éditions Pika.
Et Vénus privée de Paolo Basilieri et Giorgio Serbanenko aux éditions ici même.
Les guerres de Lucas de Renaud Roche et Laurent Hoffman chez Deman Édition et Witchy de Ariel Slamet-Ries aux éditions Achilleos. On n'a pas de Porky, on n'a pas le temps. On vous souhaite une bonne soirée à tous et on se retrouve dans 15 jours. Et puis peut-être un peu plus tard avec Luc sur sa dernière et ultime chronique.
Bonne soirée à tous.
Bonne soirée, salut.
Ah ben, vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire, ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Kaizoku Oni, Ore wa naru.
Batman ! Oh, la petite chouette.